J'aime bien les moments avec Jorgan où on travaille ensemble sur présidence et messages. D'habitude, c'est lui qui me laisse un thème, pas toujours évident, pas toujours en avance. Et là, c'est moi qui lui ai posé un peu une colle la semaine dernière en lui disant, bah voilà sur quoi je vais prêcher, bon courage pour faire une présidence. Ce matin, je vais vous lire un passage sur lequel on ne parle pas beaucoup. Ou du moins, peut-être qu'on en parle, mais je n'ai pas beaucoup entendu. On va lire l'Épître selon Jude, dans le Nouveau Testament, qui est, si vous cherchez dans vos Bibles, très près de la fin, un peu avant Apocalypse. Et c'est un passage qu'on ne lit pas beaucoup, qu'on ne développe pas beaucoup, et que je n'ai pas vraiment choisi ce matin. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur dans mes lectures, et je me suis dit qu'il y avait des choses à vous partager ce matin. Une fois n'est pas coutume, je vais lire le chapitre en entier, parce qu'il n'y a que 25 versets et c'est la totalité du livre. Et évidemment, je vous invite aussi à le relire plus posé chez vous, plus lentement peut-être, et en méditant sur certains versets. Je vais m'arrêter moi que sur 2-3 au final, il y a à dire sur chaque. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. C'est un passage qui calme, n'est-ce pas? Ça finit, dans les derniers versets, on entend le mot « allégresse » et on dit ou à l'allégresse dans les versets précédents. C'est un livre qui a posé souci pour certains, qui pose peut-être encore souci pour d'autres, notamment pour certains versets. Alors si j'en parle ce matin, parce que le thème central de l'Épître de Jude, c'est quand même les impies, je n'ai personne à dénoncer parmi vous, rassurez-vous. Mais si c'est écrit dans la parole, si c'est écrit ici dans Jude, et c'est écrit dans d'autres passages, Jude ressemble beaucoup notamment à 2 Pierre 2, ce n'est pas pour rien, ou ce n'est pas pour que nous nous disions en tant qu'Église, voilà ce qui se passe dans les autres Églises. Si nous lisons Apocalypse 2 et 3, on peut les lire d'un regard, on pourrait dire, étranger, en se disant « Ah, c'est ça ce qui se passe ailleurs ». Mais évidemment, nous sommes menacés, nous ici en tant qu'Église de Mâcon et en tant qu'Église de Christ plus généralement. Nous sommes menacés parce que, évidemment, notre ennemi n'est pas là pour lutter contre ceux qui sont déjà à lui, mais il est là pour lutter contre ceux qui ne sont pas encore à lui. Alors, je ne suis pas là pour lire ce passage devant vous et pour, avec un esprit moralisateur, vous juger tous les uns les autres et vous dire attention. Mais je me place évidemment déjà dans ces mises en garde au premier plan. Ce livre a pas toujours eu une bonne place dans la Bible et certains l'évitent un peu. Et comme vous savez, moi, dès qu'il y a des difficultés bibliques, j'aime bien, au lieu de les éviter, rentrer dedans. Notamment à cause d'un ou deux versets. Le verset 9 qui cite l'archange Michel qui conteste avec le diable le corps de Moïse. Plus loin, le verset qui cite des prophéties d'Enoch. Passage que nous n'avons pas ailleurs dans nos Écritures. Alors on a bien un Moïse, on a bien un Enoch, on a bien l'archange Michel qui est cité aussi dans Daniel. Mais beaucoup sont dubitatifs sur la place de ce livre dans la Bible parce que ces passages que cite Jude sont dans des livres apocryphes. Et d'ailleurs, le livre de Jude a failli être traité comme tel et a posé à certains moments la question de « doit-on le garder dans la Bible ?» puisqu'il cite des choses qui elles-mêmes ne sont pas dans la Bible. Qu'est-ce que veut dire déjà le mot apocryphe, si vous le savez? Il y a plusieurs livres que certains ont d'ailleurs dans d'autres versions de Bible, comme dans la Bible de Jérusalem par exemple, que nous n'avons pas dans notre version. Certains livres qui sont parfois cités même par les musulmans avec joie parce que ça parle de ce qui les arrange, mais qu'aucun chrétien ne possède dans sa Bible, curieusement. Être un livre apocryphe, ça veut dire être un livre qui n'a pas été choisi, qui n'a pas été sélectionné dans le canon de tous ces livres que nous avons. Est-ce que c'est un choix d'homme? On pourrait le croire. Et certains, comme les musulmans, vont nous le dire d'ailleurs. Mais je pense que si Jude a survécu jusque-là dans nos Bibles, c'est bien parce que Dieu l'a réservé. Si cela avait dû être ôté, depuis bien longtemps, je pense que ça aurait été fait. Mais alors, que penser de ce verset 9? Que penser de ce passage qui cite un apocryphe? Ce n'est pas le seul endroit. Hein. Certains sont venus vers Jésus en disant d'ailleurs cette petite histoire que vous connaissez peut-être. Une femme a eu 7 maris. Ça vous rappelle quelque chose? Tous sont morts un par un. De qui sera-t-elle l'épouse? C'est un passage qui est cité d'un livre apocryphe aussi. Est-ce que être un livre apocryphe, ça veut dire être un livre faux? Pas nécessairement. Est-ce que vous avez lu « La guerre des Gaules » de Jules César? Il n'est pas dans notre Bible, n'est-ce pas? Pourtant, est-ce que tout ce qui est écrit est forcément du coup faux? Non, c'est un témoignage historique, et beaucoup d'historiens s'accordent à dire que c'est très intéressant. Tout comme peut-être le livre des Maccabées a un aspect historique indéniable, sur une période qu'on connaît peu. Et donc, citer un tel livre ne veut pas forcément dire que ces livres devraient faire partie de la Bible. Mais Jude les cite en exemple. Et ce qui compte, ce n'est pas plus le livre en question qu'il cite. Mais pourquoi il le cite? Est-ce que ce matin, je vais vous dire, je sais pourquoi le diable disputait le corps de Moïse avec un ange? Absolument pas. Je pense que reconnaître quand on ne sait pas, c'est important. Et il y a plein de choses dans la Bible que je ne sais pas et que je ne comprends pas. Et heureusement, si j'avais tout lu, tout compris, tout maîtrisé, pourquoi serais-je là ce matin? Pourquoi continuerais-je de lire cette Bible jour après jour? Pourquoi prier et demander à Dieu de m'aider, de m'éclairer par son esprit? Non, je ne sais pas. Alors j'ai lu à droite, à gauche. Peut-être qu'il voulait empêcher que Moïse soit là lors de la transfiguration. Que puis-je dire sur ça? Je ne sais pas pourquoi le diable dispute le corps de Moïse. Et ce que je sais, c'est que moi, mon corps, a priori, une fois que je serai mort, j'en aurai pas grand-chose à faire. Ce que je sais, c'est que Jude cite ce passage pour une raison. Et pour dire que, même face au diable, un ange n'a pas tenu de propos injurieux. Alors que nous, entre chrétiens, parfois, quand on parle des athées ou des autres religions, ou des autres mouvements, on en arrive à tenir des propos qui ne sont pas terribles, n'est-ce pas? Eux, oh, ils sont un peu fous, un peu exaltés. Ils se trompent sur tellement de points. Nous, nous avons raison sur tout. Ce passage est aussi cité dans 2 Pierre 2, mais Pierre est peut-être un peu plus sage et ne cite pas exactement la même chose. Dans 2 Pierre 2, versets 9 à 11, il est dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui, méprisant l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Pierre esquive un peu ce passage sur Michel, le diable et Moïse, mais dit la même chose au final, que même les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement injurieux. Pourtant nous, comme c'est écrit, audacieux et arrogants, n'est-ce pas ? Nous injurions les gloires. Alors, je pourrais faire comme font souvent mes élèves. Je leur donne un exercice. Il y a marqué dans l'exercice, montrer que telle longueur fait 7 cm. Et beaucoup de mes élèves ont trouvé autre chose que 7 cm. Certains vont me dire, monsieur, j'ai fait une erreur, je ne la trouve pas. Et beaucoup d'autres vont dire, il y a une erreur dans l'énoncé. Quand je corrige le brevet, chaque année, j'ai le droit à des copies avec marqué, non, l'énoncé se trompe, moi, j'ai trouvé ça. Quelle arrogance, n'est-ce pas, pour un élève de troisième, de juger un sujet de brevet concocté par les meilleurs inspecteurs de France, lu et relu des dizaines de fois, n'est-ce pas? Et moi, à chaque fois, je leur dis « Arrêtez de faire ça. Vous avez bien plus intérêt à écrire « Je ne retrouve pas mon erreur » plutôt que d'écrire « L'énoncé se trompe ». Vous allez mettre le correcteur contre vous, n'est-ce pas ? Et je pourrais faire pareil. Je ne comprends pas ce passage. Moi, quand je lis la Bible, j'ai une autre vision. Donc le texte doit se tromper. Quelle arrogance, n'est-ce pas ? Et évidemment, on pourrait faire comme font certains, je ne vais pas lire ce livre. Moi, la Bible, je la lis, mais celui-là, non. Il y a des passages que j'évite. Alors, j'évite les généalogies parce que c'est long, c'est redondant, n'est-ce pas? On en a un peu marre. J'évite le Cantique des Cantiques parce que, bon, c'est très poétique, tout ça. Il y a des passages comme ça qu'on évite, n'est-ce pas? En Apocalypse, c'est sujet de division. On ne va pas prêcher sur ça dans une église. On ne pense pas tous la même chose. Et on peut comme ça faire comme d'autres élèves qui sautent des questions à droite et à gauche selon leur bon plaisir. Et se privent de certains points, n'est-ce pas, parfois cruciaux pour leur obtention d'examen. Et nous, de quoi on se prive aussi en faisant la même chose? Alors j'aime bien trouver des explications et je n'en ai pas toujours. Et j'aime bien pouvoir vous dire, je n'ai pas d'explication sur le pourquoi de cette lutte pour un corps. Mais ce que je vois aussi, surtout ici, c'est que Jude parle des impies. Et en parlant des impies, il ne s'agit pas pour nous ce matin de regarder à droite, à gauche et de se dire qui parmi nous en fait partie. Non. Mais il s'agit de se regarder soi-même et de se dire, est-ce que moi-même, je ne pourrais pas en faire partie? Si vous regardez cette église, est-ce la même qu'il y a un an, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Qui était là dans cette église il y a 10 ans? Ça fait pas beaucoup, hein. On pourrait faire un pourcentage, mais je vais vous épargner le calcul. L'église change, évolue, avec le temps, évidemment, avec les nouvelles personnes, avec les dons de chacun. Et de fait, l'église, en évoluant, peut évoluer sur deux chemins, le bon ou le mauvais. Et il y a plein de façons d'évoluer dans le bon sens et plein de façons d'évoluer dans le mauvais sens. Si ces versets nous sont laissés, si Dieu a choisi de les laisser dans notre Bible qu'il nous a confiée, si Dieu a inspiré cet homme pour parler dessus, ce n'est pas pour rien. Et si certaines choses peuvent nous paraître un peu bizarres et que nous ne les comprenons pas, regardons le but. Est-ce que nous ne sommes pas injurieux parfois? Est-ce que nous ne sommes pas arrogants parfois? Est-ce que, comme il est écrit, nous ne détournons pas parfois le sens du message? Ce serait très facile pour moi, en quelques mots, en quelques phrases, de façon pernicieuse, petit à petit, de détourner le sens des Écritures, d'essayer d'égarer le troupeau. C'est fait dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'assemblées, parfois volontairement, parfois involontairement, mais on peut tous se tromper. L'apôtre Paul pensait lutter pour Dieu au début de sa vie, avant de se rendre compte qu'en fait il luttait contre. Tous, ici autant que nous sommes menacés de détourner le message de Dieu ou de décourager les conversions, peut-être, par notre témoignage. Il ne s'agit pas de s'apitoyer, il ne s'agit pas de s'auto-flageller tous en disant « nous sommes mauvais », mais il s'agit, comme la parole nous dit, comme notre Seigneur nous l'a dit, d'être vigilant. Et ce matin, j'aimerais exercer votre vigilance sur plusieurs aspects. Notamment, je vais m'arrêter sur un verset, le verset 11. La technique est irréprochable ce matin. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Et je vais m'arrêter sur ces trois aspects, même si on aura encore à lire sur tous les autres. C'est quoi la voie de Caïn? On va reprendre chaque histoire rapidement, mais je ne vais pas, encore une fois, relire toutes les histoires. Mais la voie de Caïn, c'est quoi? Les deux se présentent devant Dieu, l'un est agréé, l'autre non. De là naît la jalousie. Jalousie, est-ce que c'est quelque chose qui nous touche ou est-ce que, encore une fois, on regarde de loin en disant « Ah, il y a des jalousies dans les autres assemblées ?» Non. Je peux regarder chacun d'entre vous et avoir une raison d'être jaloux, pour une chose ou pour une autre. Je peux regarder ceux qui chantent à la louange et me dire « Ils chantent mieux que moi ». Je peux regarder la batterie, le piano et me dire « Mais je ne maîtrise pas ces instruments ». Je peux regarder tellement d'autres choses chez vous, ne serait-ce que d'aller dans le parking et de regarder les voitures et de se dire « Mais celle-là est meilleure que la mienne, elle est plus récente, elle vaut plus cher. » Je pourrais regarder chaque couple ici, mais là, je ne serais pas jaloux parce que ma femme est la meilleure. J'espère qu'elle suit ce culte. Mais bien évidemment, on pourrait passer notre temps à nous regarder les uns les autres et être jaloux de chaque chose. Lui est plus riche que moi, son métier est plus reconnu. Il a plus d'enfants. Lui, ses enfants, ils ont des meilleures notes, etc. N'est-ce pas? Cette compétition qu'on a toujours, qu'on a souvent parfois dans les familles, qu'on a parfois dans les églises. Je pourrais écouter toutes les prédications de mes frères et me dire à chaque fois, « Seigneur, pourquoi ils prêchent mieux que moi ?» La jalousie est quelque chose qui nous concerne tous. Mais la jalousie devant Dieu, c'est autre chose encore que juste d'envier le joie du voisin. Caïn ne s'est pas remis en question et ne s'est pas dit « Son offrande est agréée, pas la mienne. Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que je dois changer chez moi ?» Il s'est dit pourquoi lui et pas moi, n'est-ce pas? Et on pourrait regarder autour de nous et dire pourquoi telle personne sait-elle faire ça et pas moi? Ou bien face à la maladie, pourquoi moi suis-je malade et pas les autres? C'est injuste. La jalousie peut tous nous mener à des choses désastreuses. Et notamment là, on ne parle pas de rien, on parle d'un meurtre entre frères. On n'est pas face à une petite querelle qui a créé une division, comme dans certaines églises. Mais à partir du moment où je viens à l'église en ayant ce regard-là, peu importe ce qui va être dit ou annoncé, je ne serai pas touché. Je serai concentré sur d'autres choses, sur l'éloquence de la personne qui parle, sur ses connaissances. Je pourrais me dire « Merci Seigneur d'avoir suscité tant de dons différents dans cette Église. » Ou bien je pourrais me dire « Seigneur, pourquoi tout cela en ces dons que moi je n'ai pas ?» Bien-aimés, faisons attention, soyons vigilants. La Bible nous enseigne de bien des façons à nous contenter de ce que nous avons, à être reconnaissants de tout ce que nous avons. Et la Bible nous appelle aussi à aspirer aux dons les meilleurs, n'est-ce pas? Et aspirer aux dons les meilleurs, ça ne veut pas dire vouloir prendre ceux des autres. La Bible nous appelle à courir, comme pour remporter le prix. Mais est-ce pour autant que je dois jouer un peu d'écoute pour faire tomber ceux qui sont autour, afin de m'assurer la première place? Si on continue, après Caïn, on nous cite Balaam. J'adorais l'histoire de Balaam quand j'étais petit. C'est une ânesse qui parle. Alors, les animaux qui parlent, on en a tous rêvé. On les voit dans Disney et on se dit oh, « J'aimerais bien voir un animal parler. » Mais c'est quoi le problème dans cette histoire de Balaam? Ce n'est pas qu'une ânesse ait parlé. C'est qu'on est venu chercher Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Et on est venu le chercher avec un salaire, n'est-ce pas? Comme nous dit le verset 11, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et Balaam lui-même, dans Nombre, a dit que peu importe l'or et l'argent qu'on pourrait lui donner, il ne ferait qu'annoncer ce que Dieu a prévu. Mais il a quand même suivi ses hommes. L'argent n'est-il pas une source de beaucoup de maux? Et on pourrait regarder dans notre église et se dire « Bah, là, vous savez, mon salaire actuellement dans cette église, bon, bah, il est de, je sais plus, Joël, 0 €, c'est ça ?» Je demande à la trésorerie. Bon, peut-être qu'avec l'inflation, ça va augmenter un peu. Si on augmente 0 € de quelques pourcents, que se passe-t-il? On obtient toujours 0. Mais on pourrait peut-être se dire, et peut-être qu'ailleurs, on me proposera plus. Par exemple, si un imam venait me voir et me dire « Tiens, viens dans notre mosquée, viens témoigner que Christ, en fait, il est plus petit que notre prophète, et on te payera pour ça. » Je pourrais faire comme un certain Saül a fait. Si on m'offre beaucoup d'argent, dire « Bon, j'y vais, je le fais, de toute façon, c'est des musulmans, ils sont déjà perdus, ça ne leur changera pas grand-chose. » Puis cet argent, après, je le donne à l'Église, n'est-ce pas? Quand on a dit à Saül, tu vas tout dévouer par interdit, j'ai gardé les meilleures bêtes, mais c'était pour toi, Seigneur. C'est pour tes sacrifiés. Et Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je pourrais acquérir certainement beaucoup plus de biens que ce que j'ai maintenant, si je cherchais à les acquérir de la manière la plus simple, peu importe qu'elles plaisent ou non à Dieu. Peut-être que je pourrais être payé davantage ailleurs. Être payé davantage que 0, c'est pas dur. Peut-être que le monde peut m'offrir plus. Le dimanche, au lieu d'être à l'église, si on faisait les heures supplémentaires, on gagnerait tous plus, n'est-ce pas? Beaucoup le font. Mais encore une fois, l'attrait du monde, l'attrait de l'argent, c'est souvent s'égarer de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être riche en étant chrétien? Non. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention à comment ces richesses, on les a obtenues. Ici, Se jeter pour un salaire, le salaire, j'ai parlé d'argent, mais ça peut être aussi parfois d'autre chose. Ça peut être aussi la gloire, tout simplement, la reconnaissance. Je vais dire à ces gens ce qu'ils ont envie d'entendre, comme ça ils vont m'acclamer. N'est-ce pas le propre de beaucoup de politiciens ? Ils ne le font pas forcément pour l'argent. Ils peuvent le faire pour le pouvoir, pour la gloire, pour leur orgueil. Je peux détourner le message de Dieu pour ne pas dire les vérités qui ne sont pas toujours faciles à entendre et me concentrer sur des choses belles et bonnes. Soyez joyeux, Dieu vous a sauvés, etc. Et oublier certains aspects, on ne va pas leur dire qu'ils sont pécheurs. Non. On va mettre de côté certains chants comme « Pardon, Seigneur, pardon », parce que bon, c'est un peu triste quand même le pardon. Hein. On va rester sur la joie, la beauté, la grandeur de Dieu. Évidemment que ces choses sont importantes, mais on ne peut pas commencer à détourner le message pour de mauvaises raisons. Je pourrais essayer de le transformer pour de l'argent, pour de la gloire, pour de l'orgueil, pour tellement de choses. La Bible nous promet que tout travail mérite salaire. Mais le salaire qu'on doit rechercher, c'est quoi ? Amasser sur la terre ? Non. La Bible nous dit quoi ? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, n'est-ce pas ? Est-ce que je veux placer mon trésor sur terre ou est-ce que je veux le placer dans les choses célestes ? Alors, certains déjà à l'époque se sont détournés pour un salaire, que ce soit de l'argent, que ce soit de la gloire, que ce soit autre chose. Peut-être par jalousie, comme on lit dans d'autres passages. Certains disent « moi je suis de Paul, moi d'Apollos ». On est dans les tout premiers temps de l'Église, déjà il y a des divisions, déjà il y a des disputes, déjà il y a des personnes qui se rallient à certains, à d'autres. Mais c'est pas fini. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Vous savez ce que c'est la révolte de Corée ? On est toujours dans Nombre. Alors on était dans Nombre 22 pour Balaam, je vous inviterai à relire tout cela. Pour Corée, on est dans Nombre 16. Si je vous lis Nombre 16, verset 3, « Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Tous sont saints. Ça sonne un peu comme on ira tous au paradis, n'est-ce pas ? Cette chanson qu'on connaît. Cette révolte, elle est contre Moïse et Aaron, parce qu'ils sont au-dessus. Cette révolte, elle est contre l'autorité. Mais pas contre l'autorité établie par ce monde, contre l'autorité établie par Dieu. Du coup, cette révolte, elle est contre Dieu. Les fils de Corée disent que tous sont saints, tous sont égaux. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous entendez dans le monde ? N'est-ce pas les droits de l'homme ? On est tous égaux. Et au nom de cette égalité, notre monde va laisser la place à tellement de mauvaises choses. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Tu as le droit d'aimer qui tu veux, comme tu veux, peu importe. Dans le mariage, hors mariage, c'est pas grave. Tu es libre, n'est-ce pas ? Au nom de cette égalité, souvent, on nie l'autorité de Dieu. Alors je ne suis pas là pour dire « je suis plus haut que vous ». Je suis supérieur, non. Mais je suis là pour dire que quand Dieu établit des choses, nous n'avons pas à nous placer au-dessus. On pourrait dire, en lisant ce passage, est-ce qu'on a le droit d'avoir de l'ambition en tant que chrétien ? Est-ce que l'ambition est une bonne chose ou une mauvaise chose ? On a le droit d'être ambitieux. Je ne vais pas dire à mes enfants, ne faites pas d'études, restez sur des métiers simples. Parce que c'est ce que veut Dieu. Non. Dieu nous appelle à des choses ambitieuses, Dieu nous appelle à de grandes choses. Il a des projets pour nous qui ne sont pas forcément des choses que le monde approuve. Mais Dieu nous appelle à être ambitieux. Je disais juste avant, on doit courir comme pour remporter le prix, n'est-ce pas ? Je ne dois pas, par gentillesse, laisser passer les autres, allez-y. Moi, la première place, ce n'est pas grave. Non. Dieu nous demande de courir comme pour remporter le prix. Dieu nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. Dieu nous demande de rechercher toujours plus sa face. C'est avoir de l'ambition pour Dieu. Mais pas de l'ambition selon les hommes à vouloir chercher la première place, comme les disciples l'ont fait en demandant à Dieu « Mais qui sera le plus grand, n'est-ce pas ?» En demandant cela à Jésus. Toutes ces querelles dont on peut discuter longtemps en lisant aussi Actes ou les Évangiles ou les Épîtres. Toutes ces querelles de personnes. Mais on pourrait dire de David, par exemple, qu'il n'a pas été assez ambitieux. Il a eu l'occasion de tuer Saül, de gagner quelques années de royauté. Ses hommes le poussaient à ça, n'est-ce pas ? Vas-y, tue-le. Qui ici aurait pu le juger ? Saül lui-même n'était-il pas en train de le poursuivre pour le tuer ? Légitime défense, n'est-ce pas ? En plus, il avait des oints pour remplacer Saül, il prenait sa place, c'était réglé. David n'a pas voulu porter la main sur celui que Dieu avait établi. Corée a voulu porter la main sur celui que Dieu a établi. On n'aime pas les autorités. On n'aime pas respecter l'autorité. C'est naturel. Un enfant, dès son plus jeune âge, il résiste. Il veut désobéir, il veut faire comme il a envie de faire, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont ou qui ont été parents, vous le savez. Et pourtant, on lui apprend à respecter l'autorité de ses parents. Plus tard, à respecter l'autorité du maître, de la maîtresse, des professeurs, de la police, etc. Mais naturellement, on déteste respecter l'autorité des autres. Parce que si je dois obéir aux autres, ça veut dire que quelque part, je ne fais pas ce que moi j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. Rejeter Moïse et Aaron était stupide. Parce que Moïse et Aaron avaient été établis par Dieu. Et je pense qu'il y avait eu suffisamment de signes pour leur montrer qu'ils venaient bien de Dieu. Si Moïse se cachait le visage avec un voile, quand il sortait de ses rencontres avec Dieu, c'était pas pour rien. Ce n'était pas un subterfuge. Et le pire, c'est que la famille de Corée, vous savez de quelle tribu elle fait partie ? Des Lévites. Ils faisaient partie de ceux qui déjà avaient été choisis pour servir Dieu. Quel honneur ils avaient déjà parmi le peuple. Mais cet honneur n'était pas assez. Ils ne voulaient pas juste servir Dieu, ils voulaient être tout en haut. Est-ce que nous, on ne cherche pas la même chose, parfois ? Dieu nous fait déjà l'insigne honneur de faire de nous ses enfants. Et nous, on est là en disant, non, moi je ne veux pas être un enfant, je veux être l'aîné. Je veux plus que les autres. Je veux être le premier. On peut penser aussi à Judas, parce que Judas, ce n'était pas un des 12. Quelle gloire c'est de faire partie des 12 disciples, de ceux qui ont suivi Jésus du début à la fin, qui ont assisté à toutes ces choses. N'est-ce pas ? Est-ce que le diable lui-même ne faisait pas partie des anges de Dieu ? Et poussé par cette envie de défier l'autorité, de vouloir être plus grand que celui qui est déjà plus grand que tous. Le diable s'est écrasé. Et Judas a laissé Satan entrer. On pourrait regarder encore une fois ces passages de loin en se disant « Ah ben Judas, déjà il volait dans la bourse, tout ça, bon, c'était pas le meilleur des 12, hein. Ben, les autres n'étaient pas mieux, hein, si vous les lisez. On en a qui ont renié Jésus, on en a qui tenaient des discours un peu bizarres, on en a qui cherchaient à avoir la première place, n'est-ce pas ? Les 11 autres n'étaient pas forcément meilleurs que Judas. Mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Comment ça s'est fini pour Corée et ceux qui l'ont suivi ? Pas très bien. Et ce n'est pas Moïse lui-même qui a réglé le problème. Moïse a simplement dit « Mettez-nous devant Dieu, on se met devant Dieu, Dieu choisira. » Et Dieu a choisi. Ils ont apporté du parfum et il y en a qui ont été consumés par le parfum qu'ils ont apporté. Et la terre s'est ouverte et engloutie tous ceux qui étaient participants de cette révolte. Et Dieu a montré qui il avait choisi. Il ne s'agit pas ce matin de vous dire que Dieu nous a choisis, tel ou tel, pour vous parler au nom de Dieu, et que vous devez vous taire et écouter. Non. Ce que nous devons faire tous, c'est nous taire et écouter Dieu. Respecter son autorité. Si Dieu, par son Saint-Esprit, ce matin parle par la bouche de mon frère Jorgan, je n'ai pas à me dire « je suis plus ancien que lui, je suis plus âgé, j'ai plus de connaissances, il fait la présidence, je prêche, je suis au-dessus, c'est à lui de m'écouter ». Non. Si Dieu parle par sa bouche, à moi d'être attentif. Si Dieu parle par la bouche de n'importe lequel d'entre vous, que ce soit dans ces moments de culte, dans les moments de prière, dans les moments d'échange que nous pouvons avoir, à moi d'être attentif. Si Dieu établit des autorités, à moi de les respecter. Il faut peu de choses pour que d'une église qui suit et sert Dieu, nous devenions une église qui se divise et qui lutte les uns contre les autres. N'oublions pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à nous assembler les uns avec les autres pour porter des propos injurieux sur d'autres, pour jalouser les autres, pour chercher la première place, etc. Mais nous avons à être vigilants en tant qu'Église parce que plus nous allons suivre notre Seigneur, plus nous allons le servir et plus nous allons être attaqués, criblés comme le dit la parole. Et Jude ne finit pas en disant « Rejetons ces personnes et méprisons-les ». Jude termine en disant quoi? Je reprends. « Reprenez les uns. » Alors, sachons nous reprendre de la bonne façon et avec amour, n'est-ce pas, comme nous dit la parole. « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » C'est pas rien, ça. Pour arracher quelqu'un du feu, il faut soi-même souvent s'exposer un peu aux flammes, n'est-ce pas? Et les pompiers sont souvent parfois plus blessés que les personnes qu'ils ont eux-mêmes sauvées. Ayez, pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Pourquoi la pitié? Parce que souvent ces personnes se perdent elles-mêmes. Pourquoi la crainte? La crainte qu'elles nous emportent dans leur raisonnement et dans leur révolte. Corée n'est pas mort seul. Il a emporté avec lui plusieurs familles. On pourrait s'arrêter là-dessus et se dire « bon, c'était pas très joyeux ce matin ». Mais la vie n'est pas faite que de paroles joyeuses. Et ces paroles que je vous annonce, je ne vous les annonce pas comme un juge pourrait annoncer son jugement, mais comme un frère qui vous supplie d'être vigilant. Et Jude finit bien, et j'aime sa fin. Il ne nous est pas écrit que, comme dans ce qu'on peut lire autour de nous, notre monde est foutu, n'est-ce pas? Regardez les slogans sur les pancartes. Notre Dieu change, et son discours change? Non. Je regardais ça encore cette semaine. Alors, j'aime pas parler de politique, mais je vais vous citer juste deux phrases qu'a prononcées Madame Pécresse. Je n'ai rien contre elle. Mais il y a trois ans, elle a dit de Nadine Morano qu'en la voyant, elle comprenait pourquoi elle avait quitté les Républicains. Et aujourd'hui, elle la nomme comme responsable dans sa campagne. Ce n'est pas pour juger cette personne, je n'ai rien contre Valérie Pécresse, ou pour vous inciter à voter pour l'un ou pour l'autre, c'est simplement pour vous montrer que quand on commence à regarder le monde qui nous entoure, et ne serait-ce que la politique en ce moment qui nous entoure beaucoup avec les élections qui approchent, on voit des discours qui changent. On voit ce que nous avons lu ce matin, des personnes qui marchent selon leur convoitise, des personnes qui n'ont pas l'esprit, des personnes qui admirent des personnes par motif d'intérêt, qui murmurent, qui se plaignent. Vous n'avez pas entendu des hommes politiques se plaindre actuellement? Et pas que des hommes politiques, je ne vais pas taper que sur eux. Mais tout ce que nous lisons dans Jude, nous l'observons. Et nous l'observons au quotidien. Et nous pourrions faire de même dans notre assemblée. On pourrait prendre peut-être des phrases qu'on a sorties à un moment et puis les reprendre à un autre et dire « Regarde, qu'est-ce qui se passe ? Ton discours change. » Pourtant, notre Dieu ne change pas et son discours ne change pas. Si nous sommes là ce matin, et si certains, malheureusement, ne sont pas là pour plusieurs raisons, mais nous suivent aussi peut-être sur Zoom ou ailleurs, si nous sommes là, assemblés en Église, c'est pour nous soutenir les uns les autres, pour nous édifier les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres, pour nous consoler les uns les autres, pour nous reprendre les uns les autres. Et si nous avons tous des dons différents, ce n'est pas pour que chacun en envie ce qu'on n'a pas. Mais c'est pour que comme ça, différents, nous puissions tous apporter aux autres ce que eux n'ont pas. Que dire d'un corps qui ne serait composé que de mains ou que de pieds ? Il n'irait pas bien loin, n'est-ce pas ? L'image que Dieu a choisie, c'est celle-ci. Nous sommes un corps, et Christ en est la tête. Et chacun a son rôle, chacun a son utilité. Ce qui est beau dans la fin de Jude, c'est que, après nous avoir présenté tout ce qu'il y a de mauvais dans l'homme, au sein même des assemblées et des églises, il nous dit au verset 24, « À celui qui peut vous préserver de toute chute. » Dieu n'est pas en train de dire « Vous allez tomber, voici comment vous allez tomber. » Dieu est en train de dire « Voici comment vous pourriez tomber, faites attention et soyez vigilants, veillez et priez. » Priez et croyez que je peux vous préserver de toute chute. Que je peux vous faire paraître devant ma gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Encore tout à l'heure, Gérard et Jorgan l'ont dit, l'allégresse, la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on crée nous-mêmes en nous. Je ne me suis pas levé ce matin en me disant, je vais être joyeux ces dimanches. Je suis joyeux parce qu'en lisant toutes ces choses, j'ai un peu d'émotion parce que je me sens repris par certaines. Mais j'ai de la joie parce que Dieu peut me préserver de toute chute. Parce que si un jour je paraîtrai irrépréhensible devant lui, c'est pas parce que je suis resté irrépréhensible. Mais parce que les fois où je chute, il est capable d'effacer, de pardonner. Je vous invite, pour terminer ce message, à relire tous ensemble ces versets 24 et 25 qui concluent bien ce que nous avons à dire ensemble ce matin. Je vous invite à vous lever, si vous le voulez, à les lire avec moi. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable, et dans l'allégresse, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen.